Elles ont le parfum du mystère, la séduction de l'extraordinaire, le charme de l'impossible. Pénétrez avec moi dans l'univers des incroyables histoires. Nous sommes le 3 décembre et c'est le jour de la Sainte Barbe. Une fête qui se célèbre rarement en famille. Il y a peu de femmes et de jeunes filles qui répondent au prénom, il faut bien le dire, à ces disgracieux de Barbe. Pourtant, il y a une corporation qui fête la Sainte Barbe. Ce sont les pompiers, dont elle est la patronne. Et ce 3 décembre 1949, donc, comme tous les ans, un banquet réunit à Abbeville tous les pompiers de la région. La soirée se prolonge, l'atmosphère est à l'euphorie. Quant au digestif, la sonnerie du téléphone retentit. C'est le maire de Lioncourt, un gros bourg de la région, qui alerte les sapeurs-pompiers de sa commune. La ferme d'Alphonse Leroy est en train de brûler. Il faut que vous veniez tout de suite. Sans rechigner, parce qu'ils ont sans du devoir, les pompiers de Lioncourt quittent donc leurs collègues en plein banquet. Un quart d'heure plus tard, ils sont sur les lieux. C'est hélas pour constater que le feu a pris avec une rare violence. Et après une nuit entière d'efforts, ils parviennent enfin à maîtriser le sinistre, mais il ne reste plus rien de la ferme d'Alphonse Leroy. Celui-ci est un vieil homme, en robe de chambre, entouré de ses enfants, petits-enfants. Il regarde la fumée s'échapper de ce qui fut sa maison. Il hoche la tête sans relâche. Visiblement, c'est un coup très dur pour lui. S'il y survit, il est à craindre qu'il n'y laisse la raison. Le maire de la commune prend à part Thierry Leroy, le fils aîné d'Alphonse. « J'aime pas ça. Ce feu, il est parti trop vite. Beaucoup trop vite. » « Vous pensez à un incendiaire ?»« Oui. » « Et si c'est le cas, il recommencera. » »« Il recommence toujours, ces gars-là. » Il n'y a pas d'enquête après l'incendie de la ferme d'Alphonse Leroy. D'abord, parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il s'agisse d'un acte criminel. Ensuite, parce que, de toute manière, les gendarmes n'en ont pas le temps. Le lendemain, 4 décembre, à la même heure, vers 11h du soir, c'est la ferme de Thierry Leroy qui brûle. Les pompiers, le maire et une partie de la population s'emploient à combattre l'incendie. Mais c'est tout aussi inutile que la nuit précédente. Le feu est trop violent. Cette fois, il n'y a plus de doute. Il y a bien un incendiaire à Lioncourt. Au matin, le capitaine de gendarmerie Chevrier arrive sur place avec plusieurs de ses hommes. Malgré les recherches, on n'a pas pu trouver dans les décombres des deux maisons des bidons d'essence ou des indices prouvant l'attentat criminel. Mais l'hésitation n'est pas permise. Ces incendies, frappant la même famille 2 jours de suite, ne peuvent être des coïncidences. Après avoir vainement tenté d'interroger Alphonse Leroy, le patriarche, qui depuis l'incendie de sa maison n'a visiblement plus toute sa tête, le capitaine Chevrier questionne son fils Thierry, la seconde victime. « Enfin, vous êtes l'une des plus grosses familles de cultivateurs de Lioncourt. Cela peut susciter des jalousies, des ennemis. Tâchez de chercher. Est-ce que quelqu'un pourrait vous en vouloir ?» Thierry Leroy secoue la tête. Il s'est déjà posé la question. « Non, 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 franchement, je vois pas. Enfin, vous avez des employés, des journaliers, des domestiques. Vous n'avez pas renvoyé quelqu'un récemment ?»« Non, justement pas. » Nous n'avons eu aucun problème avec le personnel depuis des années. Non, non, notre famille n'a pas d'ennemis. Vous en avez pourtant un. Mais ne vous inquiétez pas, Lioncourt n'est pas si grand. Je le retrouverai avant qu'il ne recommence. Pourtant, l'enquête ne donne rien. Pendant 3 jours, le capitaine Chevrier interroge en vain les habitants du bourg. La nuit, des gendarmes patrouillent dans les rues. Ils sont renforcés par une équipe de volontaires sous la direction du maire. Bien entendu, les abords de la dernière maison des Leroy, celle de Raphaël, le frère de Thierry, où s'est réfugié toute la famille, sont particulièrement surveillés. Et puis, la troisième nuit, une lueur subite illumine Lioncourt, une lueur bien connue. Aussitôt, les habitants qui ne dormaient que d'un œil sortent de chez eux en chemise de nuit ou en pyjama. On dirait que c'est la ferme de Raphaël Leroy, pardi ! Où cela pourrait-il brûler ailleurs ? Laissons passer une page de publicité.
Pierre Bellemare sur RTL.
Oui, c'est bien la dernière ferme des Leroy qui est en train de brûler. Comme les deux précédents, l'incendie a une violence redoutable. La maison au mur épais se tord dans les flammes. Et la malheureuse famille Leroy regarde s'envoler en fumée la dernière possession qu'elle avait. Après une nuit d'efforts, le maire vient trouver Thierry Leroy la tête basse. Je ne comprends rien. Et les gendarmes qui faisaient leur ronde, et nous, nous étions plusieurs à patrouiller. Nous sommes passés devant chez vous à 11h. Et à 11h05, il y avait le feu. Thierry, atterré, ne répond pas. Seul fait écho aux paroles du maire, le rire du vieil Alphonse Leroy, un rire dément. Cette fois, le capitaine Chevrier est décidé à frapper un grand coup. Sous ses ordres, une vingtaine de gendarmes investissent Liancourt. Les perquisitions se multiplient, les interrogatoires se succèdent. Mais cette énergie est superflue, car les habitants en ont assez. Ils ont réfléchi eux aussi, et ils viennent trouver spontanément le capitaine pour lui faire part de leurs soupçons. Ils sont unanimes. Tout le monde accuse Michel Rémy, 27 ans, employé chez les Camus, qui sont, avec les Leroy, l'autre famille importante de Liancourt. Les griefs contre le jeune homme sont minces. En fait, c'est la boulangère qui les résume le mieux. Écoutez, c'est quelqu'un de pas normal qui a allumé les incendies, n'est-ce pas ? Eh bien, le Michel, il a 27 ans et il vit toujours avec sa mère. On ne voit jamais avec les filles. Et ça, c'est pas normal. Le capitaine et les gendarmes se rendent immédiatement chez lui. C'est un grand garçon filiforme aux cheveux poils de carotte. Il a gardé en effet quelque chose d'enfantin dans son expression. En voyant le capitaine et les gendarmes, il bredouille. « Maman n'est pas là. Oh, ce n'est pas elle que nous venons voir, c'est toi. Nous voulons voir ta chambre. » La fouille est un jeu d'enfant. La chambre de Michel Rémy est sous les toits. Une feuille de contreplaqué fait office de plafond. Elle est rapidement démontée et de cette cachette, les gendarmes retirent un véritable arsenal. Un fusil mitrailleur. Une carabine américaine, un stock de cartouches, deux grenades incendiaires allemandes, deux boîtes de détonateurs, un assortiment de bouteilles de phosphore, sans parler des mèches et de la poudre. Bref, il y a de quoi faire sauter tout le village. Pendant que ses collègues fouillent dans le faux plafond, un gendarme inspecte le contenu de l'armoire à linge. Il en sort une boîte à chaussures et en l'apercevant, Michel Rémy, qui était jusque-là resté sans réaction, pousse un cri, se précipite, tente d'arracher l'objet, il faut que les policiers se mettent à plusieurs pour le maîtriser. Le capitaine Chevrier ouvre la boîte et fait un geste de surprise. Ah non, non, ce n'est pas la machine infernale qu'il s'attendait à découvrir, mais des sous-vêtements féminins. Un soutien-gorge, une culotte, deux paires de bas. Et l'identité de la propriétaire n'est pas difficile à établir. La photographie d'une jeune fille accompagne ses fétiches. Le capitaine la considère attentivement et la mémoire lui revient. Oui, il la connaît. Il l'a déjà vue au cours de son enquête. C'est la fille de Thierry Leroy. Michel Rémy tremble de tous ses membres. Ces choses-là, tu les as volées à la fille de Thierry Leroy. Sans pouvoir répondre, le jeune homme fait oui de la tête. Elle n'est pas au courant de tes sentiments. Tu n'as rien osé lui dire. Michel Rémy fait non. Tu n'as pas osé parce que tu sais que ses parents ne seraient jamais d'accord. Et c'est pour cela, pour te venger, que tu as incendié les trois fermes Leroy. Oui, c'était pour me venger. Avec quoi as-tu mis le feu ? Avec des grenades incendiaires. Peu après, les menottes au poignet, Michel Rémy monte dans la voiture des gendarmes et les habitants de Liancourt poussent un soupir de soulagement en le voyant passer. Effectivement, tout se tient. Michel Rémy avait les moyens de commettre ces attentats et il avait aussi un mobile, puéril certes, mais qui concorde avec sa personnalité un peu simple. Le capitaine Chevrier peut être légitimement content de lui. Et pourtant, l'affaire des incendiaires de Liancourt est loin d'être terminée. En apprenant la nouvelle, Madame Rémy Mère, qui n'était pas là lors de l'arrestation de son fils, se précipite chez les gendarmes. La pauvre femme est bouleversée, effondrée. Mais ce n'est pas lui, il n'a rien fait. Voyons, madame, il a tout avoué. Alors il a menti. Je ne sais pas pourquoi il a menti, mais j'en suis sûr, il a menti. Je ne sais qu'une chose, ce n'est pas lui. Il était à la maison quand les incendies ont eu lieu, les trois. Vous m'entendez ? Il était à la maison pour les trois. Le capitaine Chevrier n'est pas autrement impressionné. Ce ne serait pas la première fois qu'une mère ferait un faux témoignage pour innocenter son fils. De toute manière, je devais l'arrêter pour détention d'armes de guerre. Pour le reste, c'est la justice qui décidera. La cause est entendue. Michel Rémy est inculpé de détention de matériel de guerre et d'incendie volontaire, un chef d'accusation très lourd qui peut lui valoir la prison à perpétuité. Les jours passent, mais à Liancourt, l'état d'esprit change. Madame Rémy répète à tout le monde que c'est une erreur, que son fils était à la maison les jours des incendies. Et il y a de plus en plus de gens pour la croire. Le curé en fait partie. Il prend même la tête d'une campagne pour réclamer la libération de Michel. Il le connaît bien, il a un cœur d'or, et évidemment, il y a sa passion un peu infantile pour les armes de guerre. Après le départ des Allemands et des Américains, il a eu tort de voler du matériel militaire. Mais il était incapable de mettre le feu. Madame Rémy dit vrai quand elle affirme qu'il était à la maison. Ce n'est pas lui. Une pétition circule qui recueille la signature des deux tiers des habitants de Liancourt, mais elle n'a aucun effet. Michel Rémy passera en justice. Et la justice est lente. Il doit rester 15 mois en détention préventive avant que son cas arrive devant la cour d'assises d'Amiens. C'est un bien curieux procès. L'accusé qui vient de faire plus d'un an de prison est considéré par tout le monde comme un innocent. Les témoins succèdent à la barre pour le dire. La déposition du curé impressionne particulièrement les jurés. Il insiste sur le mécanisme psychologique qui a déterminé les aveux de Michel. Quand les gendarmes ont trouvé les sous-vêtements féminins, il a été saisi de panique. Son secret venait d'être découvert. Dans le désarroi et la honte indicible qui se sont emparés de lui à ce moment-là, il a avoué. Il a avoué parce qu'il se sentait effectivement coupable, mais d'autre chose. Le procureur renonce à requérir une peine contre l'accusé, n'étant pas absolument certain de sa culpabilité. Et après un plaidoyer de pure forme et une délibération d'une rapidité record, Michel Rémy est acquitté pour les incendies, même s'il est condamné à 6 mois de prison pour détention d'armes de guerre, peine largement couverte par sa détention préventive. Mais ce dénouement ne met pas un point final à l'affaire, au contraire. Si Michel Rémy est innocent, c'est donc quelqu'un d'autre qui est coupable. Et du coup, l'enquête redémarre. Cette fois, le capitaine Chevrier oriente ses recherches d'une manière toute différente. Le point capital est le troisième incendie. Cette nuit-là, il y avait deux groupes qui patrouillaient dans les rues de Liancourt. Les gendarmes d'une part, le maire et ses volontaires d'autre part. Et tous surveillaient particulièrement la dernière des fermes Leroy. Comment, dans ces conditions, l'incendiaire a-t-il pu passer inaperçu ? Ben, il n'y a qu'une réponse à cette question. L'incendiaire n'est pas venu du dehors, mais de l'intérieur. Il faisait partie de la famille Leroy ou de son entourage. L'enquête du capitaine Chevrier écarte rapidement les domestiques. Ils ont tous des alibis pour l'un au moins des trois incendies. Le capitaine écarte aussi les membres de la famille. Il ne s'agit pas d'une escroquerie à l'assurance. N'étaient pas assurés et ces incendies sont pour eux une véritable ruine. Enfin, il les écarte tous, sauf un. Sauf celui qui se trouvait chaque fois sur les lieux au moment du sinistre. Le vieil Alphonse Leroy était seul chez lui quand sa maison a brûlé. Il a été ensuite recueilli chez son fils Thierry, puis chez son autre fils Raphaël, et il était chez eux la nuit des incendies. Le mobile ? Le capitaine Chevrier ne le connaîtra jamais, ou plutôt, il n'y en a pas. Quand il interroge le vieil homme, il ne peut tirer de lui que des phrases incohérentes. Ce n'est pas à la suite de l'incendie de sa ferme qu'Alphonse Leroy a perdu sa raison. C'est avant. Alors on l'a enfermé à l'asile psychiatrique. Et cette fois, l'affaire était définitivement close. Il n'y avait plus d'incendiaire à Liancourt.
Jusqu'à 13h30, Pierre Bellemare est sur RTL.
En cette magnifique journée de printemps 1948, les promeneurs sont nombreux à arpenter le petit bois qui jouxte la Seine près de Rouen. Parmi eux, Raymond, 10 ans, et traîne un vélo tout neuf. « Regarde, papa, je lâche les mains !» Joël Blanchard, son père, un ouvrier du bâtiment, trottine à ses côtés pour l'encourager. « C'est bien, mon fils, continue! Regarde devant toi !» Bientôt, en quelques coups de pédale nerveux, l'enfant fuse sur le sentier et disparaît derrière un bouquet d'arbres. « Reviens, Raymond, attends-moi !» Soudain, un cri suraigu stoppe net le gazouillis des oiseaux. Joël sursaute. « Raymond !» Quand l'ouvrier découvre que son fils est sain et sauf et qu'il se tient penché à la portière d'un taxi, dissimulé sous des branchages, son cœur cesse de battre la chamade. Son inquiétude fait place à la colère. « Mais pourquoi t'as crié comme ça? Tu m'as fait peur !» L'enfant est blême. Ses lèvres remuent faiblement, mais aucun son ne s'en échappe. Alors instinctivement, Blanchard retire sa casquette et rejoint son fils. Entre les sièges de la voiture, le corps raidi d'un homme couvert de sang a basculé sur le volant. Grâce à la plaque d'immatriculation du taxi abandonné dans le bois près de Rouen, la police identifie sans difficulté le cadavre du chauffeur. Il s'agit de Lucien Patin, 56 ans, tué d'une balle de petit calibre tirée dans la tête à bout portant. 2 ans après les faits, devant la cour d'assises de Seine-Maritime, le commissaire congé explique à la barre des témoins comment il est parvenu à confondre l'assassin présumé. Tout comme ses collègues, M. Patin avait pour habitude d'attendre ses clients à une station proche de la gare. Alfred Mougin, le garçon du café voisin Le Beau Soleil, transmettait les offres de course au chauffeur en stationnement. Le 23 mai 1948, jour du drame, Mougin a informé Patin d'un appel en provenance d'un certain Patrick Valcourt. Le commissaire marque une pause. Puis il se tourne vers le box des accusés et pointe un index autoritaire en direction d'un petit homme aux cheveux bruns. « Patrick Valcourt, ici, présent !» Les têtes des jurés pivotent à l'unisson de 30 degrés et 12 paires d'yeux scrutent intensément le prévenu. Le policier poursuit. « Selon le témoignage du garçon de café, Patrick Valcourt a téléphoné d'un village proche de Rouen. Il a demandé qu'on lui envoie un taxi d'urgence, sa voiture étant tombée en panne. M. Patin s'est immédiatement rendu à l'adresse indiquée. Et ensuite, aucun témoin ne l'a revu vivant. » Le président intervient. « Confirmez-vous les faits, M. Valcourt ?»« Je confirme avoir appelé un taxi pour me rendre à l'hôpital. »« Reconnaissez-vous avoir assassiné M. Patin ?»« Vous encourez, je vous le rappelle, la peine capitale. » Le prévenu se dresse d'un bond et il hurle à travers le prétoire. « Oui, j'ai appelé un taxi, mais je suis innocent. Je n'ai tué personne. Je suis en prison depuis 2 ans pour rien. » Et il laisse tomber d'une voix accablée. « D'ailleurs, je n'ai jamais vu ce Lucien Patin. » Un silence accablant plombe le tribunal. Les jurés échangent des regards médusés. Le président cède la parole au procureur. « Vous dites n'avoir tué personne, M. Valcourt. Votre mémoire vous trahirait-elle ? J'ai en main votre casier judiciaire. » Et j'y lis d'abord que vous avez été condamné une bonne dizaine de fois pour vol et escroquerie. Est-ce exact ? Valcourt hoche la tête. Bien. Je constate ensuite qu'à la libération, vous avez été mêlé à une sombre affaire d'assassinat. Une rumeur parcourt la salle. J'aimerais vous entendre brièvement sur ce sujet. L'avocat de la défense intervient. Hors de propos. L'affaire a été jugée et mon client relaxé. Les jurés apprécieront, décide le président. « Nous vous écoutons, Monsieur Valcourt, encourage le procureur. »« Ben voilà, c'est très simple. En février 1945, deux camarades et moi, nous avons exécuté un ordre de la résistance qui consistait à abattre de sang-froid un officier de police. C'est bien ça ?» souligne le magistrat. « Une crapule, oui. Un tortionnaire à la botte de Pétain. Nous l'avons attendu devant chez lui, caché dans une voiture. Quand il s'est présenté, l'un d'entre nous l'a abattu. Oui, oui. » De 5 balles en plein cœur. Vous n'avez laissé aucune chance à l'inspecteur Le Sueur. Simple curiosité. Est-ce vous, M. Valcourt, qui avez pressé la détente ? Le prévenu empoigne les montants de son siège et une bouffée de colère enfle sa gorge. En d'autres circonstances, je ne répondrai pas à cette question. Je le fais contraint et forcé. Non, ce n'est pas moi qui ai tiré. J'ai été au volant. L'avocat de la défense s'insurge. Mais enfin, à quoi riment ces digressions, monsieur le président ? Dans l'affaire Le Sueur, mon client et les deux résistants qui l'accompagnaient ont bénéficié d'un non-lieu. Le procureur agite vivement les bras en signe d'apaisement. D'accord, d'accord, j'en termine. Je note toutefois que le prévenu a préféré l'exécution sommaire à un procès en bonne et due forme. Le président intervient à son tour. Oh, ça suffit. Revenons au procès qui nous occupe. Le procureur marque une pause, feignant d'avoir perdu le fil de ses pensées, puis il fouille dans les papiers qui sont étalés devant lui et exhibe un paquet de factures. En mai 1948, après avoir dilapidé les économies de votre mère, vous vivez seul dans une maisonnette. Vous n'avez toujours aucune ressource officielle et vous êtes criblé de dettes. Vous ne protestez plus, monsieur Valcourt. Bon, alors je poursuis. Les commerçants refusent de prolonger leur crédit et l'un d'eux, à qui vous avez remis un chèque sans provision, menace de porter plainte. Est-ce exact ? Oui, c'est vrai. J'en déduis qu'au moment des faits qui vous sont reprochés, vous vous trouviez dans un grand embarras financier. On peut le dire comme ça, ricane Valcourt. Et c'était pas la première fois. Vous étiez aux abois et prêt à tout pour vous procurer rapidement quelques billets, comme par exemple assassiner un innocent chauffeur de taxi pour le dévaliser. Amalgame, votre honneur, se révolte l'avocat de la défense. Étayez votre argumentation, maître, ordonne le président. Les jurés ne tiendront pas compte de la dernière remarque. Le procureur reprend sans s'émouvoir le moins du monde. Avez-vous fait appeler le chauffeur de taxi Lucien Patin à votre domicile le 23 mai 1945 ? Oui, je l'ai déjà dit. Pour quelle raison aviez-vous besoin de ses services ? Ma mère venait d'être hospitalisée à Rouen. Je voulais lui rendre visite le plus vite possible. Vous avez donc pris place dans le taxi de M. Patin. Patrick Valcourt prend une grande inspiration, puis, détachant lentement chaque mot, il répond « Non, le taxi n'est jamais arrivé. Après une demi-heure d'attente, j'ai fini par prendre le car. » Un nouveau silence envahit le tribunal. L'ennui, voyez-vous, monsieur Valcourt, c'est que le chauffeur du car n'a aucun souvenir de vous avoir vendu un billet. Il ne peut pas se rappeler de tous les passagers qu'il transporte, s'énerve le prévenu. Le car était bondé. Le procureur agite les manches de sa robe comme les ailes d'un gigantesque corbeau. Admettons, mais à l'hôpital, votre affaire se complique puisque... Le magistrat brandit vers le jury une feuille de papier. « Puisque vous n'avez pas rencontré votre mère ce jour-là, ce courrier de l'assistance publique le confirme. » Les membres du jury retiennent leur souffle. « Je suis arrivé trop tard, confesse honteusement Valcourt. L'heure des visites était passée, mais j'ai parlé à un médecin qui m'a donné des nouvelles rassurantes. À un médecin, dont bien sûr vous ignorez le nom. » Valcourt acquiesce, la tête enfoncée dans les épaules. À cet instant, l'avocat de la défense intervient. « Je demande l'audition d'un nouveau témoin. »« Faites-le entrer, accepte le président. »« Je m'appelle Pascal Michel, » dit l'homme qui a pris place à la barre. « Je suis docteur en médecine. »« Le 23 mai 1948, j'ai reçu à l'hôpital de Rouen où j'exerce la visite de ce monsieur et le médecin désigne Patrick Valcourt. Comment pouvez-vous être sûr d'avoir croisé cet homme dans un couloir il y a 2 ans ? Interroge le procureur, devenu soudain agressif. Quand il a été arrêté, j'ai vu sa photo dans le journal. Je l'ai reconnu sans l'ombre d'un doute et j'ai d'ailleurs conservé l'article. C'est lui, je le jure, et j'ai juré de dire la vérité. À défaut de preuves matérielles étayant ou réfutant l'implication du prévenu dans l'assassinat du chauffeur de taxi, procureur et avocat de la défense développent dans leur plaidoirie des hypothèses radicalement opposées. Pour le magistrat, Valcourt a commis un crime presque parfait. Il a tué Patin, dérobé son argent, s'est rendu à l'hôpital et a insisté pour s'entretenir avec un médecin afin de se fabriquer un alibi. Pour l'avocat de la défense, le taxi n'est jamais arrivé au domicile de Valcourt. Il a été hélé en chemin par un autre client qui a sans doute proposé à Patin une course plus rémunératrice. Ce dernier a accepté par appât du gain, ignorant qu'il faisait monter à son bord son futur assassin. Comme la loi le prévoit, c'est à l'accusé qu'il appartient de prendre la parole en dernier. Valcour se lève donc, lentement. Il toise le procureur. Et puis, il dévisage le président et son regard s'attarde sur chacun des 12 jurés. Et il déclare enfin d'une voix forte « Je n'ai pas tué Lucien Patin ». Après avoir longuement délibéré, les jurés ont estimé que le prévenu était innocent et le président a prononcé un non-lieu. Les membres du jury ont-ils appliqué la clause du doute raisonnable ou ont-ils tout simplement perçu dans la voix de Valcour un accent de vérité authentique, un cri du cœur qui valait à lui seul toutes les preuves matérielles.
Les incroyables histoires de Pierre Bellemare, réalisées par Gaïa Becco, rédaction
Grégory Franck,
Jean-François Namias et Jérôme Ecker. Documentation Francine Vincent.